Jules Lacroix, le sphinx. Cette jeune fille est un ange, pensait Jules Darel en baisant une lettre qu'il tenait et relisait depuis une heure. Quel style, quel mélange d'amour et d'innocence, comme sa belle âme reluit à chaque ligne. Non, il est impossible que je ne sois pas heureux avec une si charmante créature. Puis il portait encore à ses lèvres la feuille toute mouillée de baisers et la serrait contre son cœur. La chambre où se trouvait Jules Darel donnait sur un grand jardin et quelques acacias en fleurs, s'élevant jusqu'aux fenêtres, secouaient à la brise leurs grappes blanches et parfumées. Cette chambre, assez vaste, servait à la fois de salon et de cabinet de travail. C'était là que Jules Darel, brillant avocat de 22 ans, rédigeait ses plaidoyers et donnait des consultations. Mais bien qu'il reçût fréquemment de jeunes et jolies clientes, il n'avait jamais métamorphosé son cabinet en boudoir, et les agaceries féminines l'avaient toujours trouvé rebelle et sourd. C'était une langue qu'il ne semblait pas comprendre. On n'avait jamais connu de maîtresse à Jules Darel. Pourtant, les occasions ne lui manquaient pas, et certes, il devait plaire aux femmes, car il était grand, large d'épaule et très mince de taille. Et il avait des yeux bleus, d'une étrange douceur, qui contrastaient merveilleusement avec la couleur brune de son teint. Ses cheveux, longs et bouclés comme ceux d'une jeune fille, étaient d'un noir éblouissant. Cependant, Jules Darel n'était pas insensible et froid, comme le prétendaient plusieurs dames fort aimables, dont les voluptueuses œillades s'étaient brisées contre son regard impassible. Il avait, tout comme un autre, du sang dans les veines, un sang vif et bouillant, je vous jure. Si parfois au bal, il voyait deux beaux yeux de femme se diriger sur lui et sourire, s'il entendait seulement le bruit d'une robe de soie, il frissonnait et brûlait tout ensemble. Sa vue était comme obscurcie d'un nuage et ses idées se confondaient un moment dans sa tête. Mais il détournait tout à coup ses regards avec un air de dédain et pensait à la belle jeune fille, vierge et pure comme lui, qu'il aimait si passionnément depuis 3 années. Hermance Rénal venait d'avoir 17 ans. Fille d'un brave militaire mort sur le champ de bataille, elle avait reçu la plus brillante éducation à la maison royale de Saint-Denis. Elle possédait un talent véritable en peinture, était fort bonne musicienne et savait parfaitement l'anglais et l'italien. Sa conversation n'était pas creuse et futile comme celle de presque toutes nos Parisiennes qui n'ont pas la moindre lecture et qui sont obligées de fermer la bouche lorsqu'on parle de choses un peu plus sérieuses que les robes et les chapeaux. Hermance Rénal avait encore sa mère, bonne vieille femme de province, à moitié sourde, qui vivait d'une modique pension. Madame Rénal et sa fille recevaient fort peu de monde et ne voyaient guère que Jules Darel, qui les connaissait depuis son enfance. Étant encore au collège, il sentait déjà battre son cœur et bouillonner le sang dans ses artères, quand le dimanche, on le venait voir quelquefois la jeune pensionnaire de Saint-Denis, qu'il baisait fraternellement au front. Hermance et Jules avaient grandi l'un et l'autre dans la plus tendre intimité. Le petit collégien, au bouton fleur de lysée, était devenu un homme. Enfin, noble et chaleureux avocat, sa clientèle s'augmentait de jour en jour. Assez riche déjà par lui-même, il aurait pu choisir entre les plus beaux partis et prendre une femme riche et de haute naissance. Mais il n'était pas de ces gens qui sacrifient l'amour à la fortune. Hermance, toute pauvre qu'elle était, lui semblait préférable aux plus riches, aux plus belles, aux plus brillantes. Leur mariage était sur le point de se conclure, et Jules n'attendait plus que le consentement de son père, qui vivait retiré dans une ville de province. Mais la réponse du vieillard n'arrivait pas, et Jules s'étonnait fort de ne point recevoir de lettre. Ce jour-là, surtout, le jeune Darel attendait avec une impatience mêlée d'inquiétude. Sachant combien son père était exact à lui répondre ordinairement, Il commençait à craindre que le bon vieillard ne fût malade et dans l'impossibilité d'écrire. Par moments, il était tenté de prendre la diligence et d'aller chercher lui-même le consentement et la bénédiction paternelle. Il se promenait de long en large dans son cabinet, tout en se creusant la tête pour trouver la cause de ce retard, quand son domestique arrive précipitamment et lui remet une lettre dont Jules reconnaît aussitôt l'écriture. Le domestique n'était pas encore sorti, que son jeune maître avait déjà parcouru des yeux les trois quarts de la lettre, bien qu'elle fût d'un caractère à peine lisible. La figure de Jules rayonnait de bonheur. Une émotion bien douce faisait trembler la feuille dans ses mains, car les expressions du vieillard étaient pleines de tendresse en parlant d'Hermance, et non seulement il approuvait l'union de Jules avec elle, mais encore il s'en réjouissait comme un bon père et louait le désintéressement de son fils. Jules n'avait jamais craint que son père s'opposât de ce mariage, car M. Darrel était le meilleur des hommes. Mais, ayant fait sa fortune dans le commerce, le bon vieux provincial aimait assez l'argent, et l'alliance de son fils avec une famille pauvre aurait pu lui sembler peu sortable. Et Jules, transporté de joie, ne pouvait se lasser de relire certains passages de cette lettre. « Mon cher Jules, écrivait M. Darrel, je suis enchanté de voir que tu penses, quoique bien jeune encore, à former une liaison honnête et solide, approuvée par le monde et la morale. Moi, j'ai toujours été d'avis qu'il fallait se marier jeune, et ta pauvre mère, qui est au paradis, n'avait pas encore 24 ans quand je l'ai prise pour femme. Je t'approuve fort de choisir Mademoiselle Hermance Rénal, qui est une excellente personne, dont j'estime infiniment la famille. Bon, il est vrai, oui, que cette charmante enfant n'est pas riche, je dirais même que, sous le rapport des écus, la fortune l'a traitée en marâtre, mais c'est égal, il ne faut pas toujours penser aux qualités du coffre-fort. Les qualités du cœur ont bien aussi leur mérite. Bref, mon ami, je consens à ce mariage, et si la goutte ne me retient pas clouée sur ma chaise longue, tu me verras à Paris dans une quinzaine de jours. » Jules, après avoir écrit quelques lignes à la hâte, sonna son domestique. « Cours chez Madame Rénal, donne-lui cette lettre. » Cependant, Jules, encore tout occupé d'Hermance, s'était remis non sans peine à l'ouvrage, et complusant avec distraction les fastidieuses paperasses qui surchargeaient son bureau. Mais bien qu'il s'efforçât de ramener son esprit vers le positif du code et de la procédure, oubliant par moments qu'il était avocat, il ne songeait plus qu'à son amour. Enfin, voyant que malgré toute son application, il lisait machinalement et sans comprendre, il chercha ses gants et son chapeau pour aller au palais. Il se disposait à sortir quand on sonne, et comme le domestique était absent, Darrel va ouvrir. Il se trouve face à face avec un gros monsieur décoré, à la figure aimable et riante, qui lui serre affectueusement la main. Ce gros monsieur est accompagné d'une fort jolie femme, dont la robe de crêpe noire, gracieusement décolletée, laisse apercevoir des épaules rondes, blanches et polies comme du marbre. Elle adresse au jeune homme un sourire complaisant et le salue d'une légère inclination de tête. C'est une de ces nobles et fières beautés dont les proportions régulières, la taille élevée et l'imposante démarche ont quelque chose d'impérial. En voyant cette femme au profil pur et sévère comme celui d'une statue grecque, on ne peut pas s'empêcher de dire « Oh, qu'elle est belle !» Ses yeux, brillants ou langoureux, suivant la passion qui l'anime, ont quelque chose d'attrayant et de fascinateur. Mais par intervalles, dans ses prunelles noires si vives et si lumineuses, dans le mouvement de ses lèvres pâles et minces, un observateur pourrait démêler du sarcasme, de l'amertume, un désir immodéré de vengeance et toutes sortes de pensées mauvaises qui souvent passent sur le visage comme une haleine sur le poli d'un miroir. Le gros monsieur, qui venait d'entrer dans l'appartement de Jules Darrel, était M. Duvillier, ancien maître de forge, prodigieusement riche et retiré depuis une vingtaine d'années. Sa physionomie franche et ouverte, quoique un peu niaise, prévenait tout d'abord assez favorablement. Et quand il ôtait son chapeau de feutre blanc à longs poils, son large crâne, à moitié chauve, imprimait le respect. Certes, à avoir un aussi magnifique développement frontal, on eût pris M. Duvilliers pour un homme de génie. Bon, ce n'était pourtant qu'un respectable sexagénaire que sa charmante femme menait par le nez depuis 14 ans de mariage. M. Duvilliers était en outre un original dans toute la force du terme. Il faisait des collections d'insectes et de papillons, s'occupait de menuiserie, d'optique, et passait une grande partie de la journée dans une chambre noire qu'il avait fabriquée et qu'il plaçait devant sa fenêtre pour examiner les passants. En outre, il traduisait Cornelius Nepos. C'était là son idée fixe. Depuis environ 40 ans qu'il était sorti du collège, il n'avait guère lu que Cornelius Nepos. Et grâce au dictionnaire de Noël, il commençait à comprendre assez passablement la vie de Milciade et de Thémistocle. Aussi préférait-il Cornelius Nepos à tous les historiens, à tous les poètes, à tous les philosophes. Il soutenait que ce grand auteur n'avait jamais été dignement traduit et que nos hommes politiques feraient bien moins de sottises lorsqu'ils pourraient étudier Cornelius dans une version élégante et fidèle. Et il se croyait prédestiné à l'accomplissement de ce grand œuvre. « Eh bien, mon cher défenseur, » dit M. Duvilliers avec un gros rire en secouant pour la troisième fois les deux mains de Jules Darel, « faut avouer que vous êtes éloquent, actif, laborieux, absolument comme l'Athénien Timothée, fils de Conon, dont on parle Cornelius Nepos. Timotheus colonis filius Athéniensis, fuit dissertus, in piger, laboriosus, sans compter une foule d'autres vertus qu'il possédait, et dont vous êtes également donné, virtutibus procreatus, comme dit Cornelius Nepos, dans un autre endroit, non moins remarquable. N'est-il pas vrai, ma femme ? » Madame Duvilliers ne répondit à cette question singulière que par un léger mouvement d'épaule, fort significatif auquel son mari ne fit pas attention, mais que Jules ne laissa pas échapper. Et comme elle venait d'entrer dans le salon, le jeune homme s'empressa de lui offrir un fauteuil et remit sur une table ses gants et son chapeau qu'il avait pris pour sortir. « Oh, mais je vois, monsieur Darel, que nous vous dérangeons, » dit-elle avec un sourire plein d'amabilité, en lançant à Jules un regard tendre et mélancolique. « Vous alliez sortir. » « En effet, madame, » répondit Jules d'un air embarrassé, car l'expression étrange qui brillait dans les yeux noirs de cette femme l'intimidait presque. « Mais je puis me dispenser aujourd'hui d'aller au palais. Aucune affaire importante ne m'y appelle. » « J'en suis enchanté, » interrompit Madame Duvilliers. « Oh, je craignais que vous ne fussiez absent à cette heure. J'aurais désiré vous rendre visite dans un autre moment, mais mon mari n'a pas voulu attendre. Il était si impatient de vous remercier. »« Oui, j'en brûlais, » dit Monsieur Duvilliers en serrant avec feu la main de Jules. « Vous avez déployé dans ce procès une éloquence au-dessus de votre âge. Et je vous compare encore à Timothée. » Qui, presque enfant, plaida devant le tribunal d'Athènes. Cum matenis adolescentulus causam diceret. Oh, jeune ami, je vous écoutais avec ravissement, et ma cause, qui était déjà fort bonne, m'a paru 100 fois meilleure dans votre bouche. Je vous remercie du fond de mon cœur. Oh, vous attachez trop de prix aux légers services que j'ai pu vous rendre, monsieur. « Je vous répète que votre cause était excellente et que tout autre à ma place vous l'aurait fait gagner. »«
Non, 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 jeune homme. Ago tibi gratias, » répliqua le sexagénaire en tirant d'une poche de sa redingote une énorme tabatière en buis de forme singulièrement grotesque. « Faites-moi l'amitié d'accepter ce faible cadeau. » Je l'ai tourné et ciselé de mes propres mains, d'après un modèle étrusque, et j'espère qu'à chaque prise de tabac, vous penserez à moi et à ma femme.
C'est un singulier présent que vous fait là mon mari, dit madame Duvillier en se mordant les lèvres. Il aurait dû plutôt le garder pour son usage particulier, car ce n'est pas à votre âge, monsieur Darrel, qu'on se barbouille la figure de tabac. Mais vous êtes dans l'erreur, madame Duvillier, s'écria le bonhomme en se bourrant les narines d'une large prise. Le tabac est succulent à tous les âges, et si vous étiez raisonnable, vous en prendriez vous-même pour chasser vos migraines.
Oh, de grâce, monsieur, changeons de conversation, repartit sèchement madame Duvillier. Vous me dégoûtez horriblement quand vous parlez de choses pareilles, et vous me feriez fuir à 100 lieues.
Gilles, pour interrompre ce léger débat conjugal qui aurait pu s'échauffer, remercia M. Duvillier de sa tabatière, en loua le travail, la forme, les ciselures, puis l'ayant ouverte machinalement, il y trouva 2 billets de banque qu'il déplia d'un air étonné.
« Ah, vous avez sans doute oublié ces billets, monsieur, » dit Jules en les présentant à M. Duvillier. « Vous veuillez les reprendre. »
Mais celui-ci, croisant les bras, se rejeta en arrière dans son fauteuil pour éviter le contact du papier-monnaie.
« Mais vous plaisantez, jeune homme, » dit-il majestueusement. « Ne vous dois-je pas des honoraires ? Cette faible somme ne l'avez-vous pas bien gagnée, et vous qui m'en faites gagner 100 fois autant ? Alors je ne veux rien reprendre. »
« Mais ces honoraires sont exorbitants, monsieur. Il m'est impossible de tout accepter. »
« Ne me poussez pas à bout, » reprit le vieux client, qui ne voulait rien entendre. « Je vous en donne le double. »
Mais enfin, Jules, qui s'obstinait à vouloir rendre au moins la moitié de la somme, fut contraint de céder pour faire plaisir au vieillard et de la garder tout entière.
« À la bonne heure, » dit madame Duvillier. « Mais il me semble, monsieur, » continua-t-elle en s'adressant à son mari, « que vous eussiez beaucoup mieux fait de mettre cette bagatelle dans la bourse que j'avais prônée moi-même pour monsieur Jules, car votre tabatière est quelque chose d'épouvantable. »
« Comment épouvantable ? » s'écria monsieur Duvillier, blessé au vif dans son amour-propre d'artiste. « Une tabatière que j'ai confectionnée moi-même jusqu'aux charnières, que j'ai ciselée d'après l'antique, que j'ai polie, lustrée, vernie avec un soin tout particulier pendant 8 jours consécutifs, au lieu de traduire mon Cornelius Nepos, qui n'est encore qu'à la moitié.
« En effet, monsieur, » dit Jules Darrel avec courtoisie, « nous savons que vous travaillez depuis quelque temps une traduction de Cornelius Nepos. »«
Mais depuis 40 ans, monsieur, » répondit le brave homme d'un air d'importance, « je ne suis pas encore au bout. Cette occupation-là m'amuse singulièrement. »
« Aussi, monsieur Duvillier, fait-il durer le plaisir longtemps, comme vous voyez, monsieur ?» ajouta sa femme avec une expression d'ironie amère dans la voix et dans le regard.
« Allez, jeune homme, bon, c'est un rude jouteur que Cornelius Nepos, » reprit solennellement monsieur Duvillier. « Et certes, il faut une sagacité peu commune pour découvrir tout ce qu'il y a de philosophique et de profond dans chacune de ses phrases. » Pour faire passer dans notre misérable langue française tout l'atticisme de ce grand écrivain, de ce judicieux moraliste, qui servira toujours de modèle aux écoliers de toutes les classes. »
Et pendant que M. Duvillier parlait de la sorte, il fallait voir son teint s'animer comme celui d'un jeune homme. Son large front rayonnait d'orgueil et de joie. Madame Duvillier ne détachait pas ses regards de Jules, et quand celui-ci levait les yeux, elle lui souriait voluptueusement.
« Je fais mes délices des auteurs latins, » dit Jules Darrel pour déguiser son embarras, « et j'estime beaucoup les bonnes traductions. Vous m'obligerez infiniment de me lire quelques pages de la vôtre, monsieur. »«
Oh, de tout mon cœur !»
Madame Duvillier s'empressa de couper la parole à son mari, qui déployait déjà un rouleau de papier jaunâtre et taché d'encre. C'était la vie de Thémistocle qu'il venait de tirer de sa poche.
« Prenez garde à vous, monsieur Jules, » dit-elle, « vous ne savez pas ce que vous demandez. Voyez déjà cet énorme rouleau qui vous menace. Monsieur Duvillier est homme à vous lire son Cornelius depuis la première page jusqu'à la dernière. Et nous avons des choses beaucoup plus intéressantes à dire, il me semble. Je viens d'apprendre que vous êtes sur le point de vous marier, monsieur Jules.
En effet, madame, oui, je n'attendais plus que l'autorisation de mon père et je viens de la recevoir à l'instant même.
C'est bien, jeune homme, dit monsieur Duvilliers. Il faut toujours consulter son père dans les occasions importantes de la vie. C'est ce que je ne cesse de répéter à mes trois enfants, à l'aîné surtout, qui est un diable et que sa mère gratte un peu. Au moins, s'il comprenait les passages les moins difficiles de Cornelius Nepos.
Je n'ai pas l'honneur de connaître la personne que vous épousez, monsieur Jules, reprit madame Duvilliers, avec une expression singulière de physionomie. Mais je suis persuadé d'avance que vous faites un bon choix. Puis-je, sans indiscrétion, vous demander si c'est une veuve ou une demoiselle ?
C'est une jeune personne charmante, madame, répondit Jules avec feu, belle comme dame comme de visage. Elle a 17 ans.
C'est un peu jeune, interrompit madame Duvilliers, dont la figure se contracta légèrement.
Mais je trouve pas, répliqua monsieur Duvilliers avec bonhomie. Vous, madame, vous n'aviez pas encore 16 ans quand nous nous sommes mariés. Non, pas 16, poursuivit-il en comptant sur ses doigts. « Car notre fille est du 15 avril 1800. »«
Bon, mais faites-nous grâce de vos dates, monsieur. Rien n'est plus insupportable. C'est comme votre Cornelius Nepos. »«
Oh, pour le coup, madame, c'est trop fort !» dit monsieur Duvilliers, qui renfonça brusquement son manuscrit dans sa poche. « Vous avez tort de calomnier ce que vous ne connaissez point. N'est-il pas vrai, jeune homme ? Allons, plaidez la cause de Cornelius. » Vous qui avez si bien flanqué la mienne. Oh, si vous pouviez venir vous distraire un mois ou deux à mon château de Picardie. Mais quelle délicieuse journée nous passerions ensemble. Je vous lirai ma traduction. Par malheur, l'étude et la chasse des papillons absorbent une grande partie de mon temps. Et je ne puis hélas me consacrer tout entier à mon auteur favori. Il faut avouer que la chasse des papillons est aussi très intéressante.
M. Duvilliers n'acheva point. La parole s'éteignit tout à coup dans sa bouche. Il venait de voir, dans une glace qui se trouvait en face de la croisée, se dessiner une espèce d'ombre voltigeante en forme de grosse mouche qui n'avait fait que passer.
« C'est un sphinx !»
dit-il avec un tremblement dans tous les membres, en se levant de son fauteuil convulsivement.
« Oui, c'est le sphinx du laurier rose, » ajouta tranquillement madame Duvilliers,
qui n'avait rien vu, mais qui trouvait le moyen excellent pour se débarrasser quelques minutes de son mari.
« Le sphinx du laurier rose !» s'écria monsieur Duvilliers en pâlissant. « Lui que je cherche depuis tant d'années. Il fallait donc me le dire tout de suite, malheureuse femme. Mais peut-être est-il encore temps. Dites-moi seulement de quel côté s'est-il envolé ?»«
Il peut être loin, » répondit-elle, puis indiquant à son mari un berceau de chèvrefeuille.
Je crois qu'il est posé sur une branche. Vous le trouverez probablement à l'entour de cette tonnelle. »
M. Duvilliers était déjà dans le jardin. Il n'avait pas même songé à prendre son chapeau et courait en plein soleil avec son crâne chauve et nu, au risque d'attraper une fièvre cérébrale en place d'un papillon. Quand madame Duvilliers fut seule avec Jules Darel, elle se rapprocha de lui et, sans autre préambule qu'un regard humide et languissant qui porta le trouble dans l'âme du jeune avocat, elle lui dit d'une voix douce
« Je suis ravi, monsieur, de me trouver un instant seul avec vous. Je désirais vous parler d'une affaire que je regarde comme importante, et la présence de mon mari me gênait un peu. »
Jules ne savait que penser d'un pareil exorde, mais il n'était pas à son aise auprès de madame Duvilliers.
« Mais je suis prêt à vous entendre, madame, » dit-il en balbutiant. « Ayez la bonté de m'apprendre ce que je puis faire pour vous. »«
Tenez, monsieur Jules, » continua-t-elle d'une voix un peu émue, « il faut que je vous parle à cœur ouvert. Votre physionomie aimable et bonne m'encourage à la franchise. » Mais auparavant, dussé-je vous paraître un peu curieuse, permettez-moi de vous adresser une question à laquelle vous serez libre de répondre ou de ne pas répondre. suivant le degré de confiance que vous voudrez bien m'accorder.
Mais veuillez vous expliquer, madame, je vous en prie, répondit Jules, dont l'embarras et l'étonnement redoublaient.
Bien, je voudrais savoir, monsieur, si vous aimez véritablement cette jeune personne que vous avez l'intention d'épouser.
C'est alors que la surprise de Jules fut à son comble. Une rougeur extrême colora ses joues. Il regardait Madame Duvillier fixement et la bouche béante, sans trouver une syllabe à lui répondre.
« Oui, ma question doit vous sembler bien hardie, monsieur, » reprit-elle avec un sourire contraint. « Mais vous l'excuserez probablement, quand vous saurez pourquoi je vous l'adresse.
Ben, « En effet, madame, j'ai lieu d'être étonné. Quel intérêt pourriez-vous prendre ?»«
Un très grand intérêt, monsieur, je vous assure, » poursuivit-elle avec chaleur. « L'aimez-vous, dites-moi. »
Ses yeux noirs et perçants comme des yeux d'aigle, fixés tout grand ouverts sur le visage de Jules, semblaient vouloir pénétrer dans sa tête pour y lire ce qu'il pensait.
« Vous ne voulez donc pas me dire si vous l'aimez ou non, monsieur Jules ?»«
Ben, je l'aime, madame, puisque je l'épouse, » répondit le jeune homme avec dignité.
« Bon, c'est pas une raison, » répliqua madame Duvilliers, qui ne put retenir un mouvement de colère et de dépit qu'elle réprima presque aussitôt. On épouse tous les jours des personnes qu'on n'aime pas le moins du monde, et les trois quarts des gens qui se marient s'en repentent le lendemain matin.
Ah, je ne sais pas ce que font les autres, madame. Quant à moi, je suis très sûr que je ne me repentirai jamais d'avoir attaché ma vie à celle de la femme que j'aime.
Mais vous n'en savez rien, mon Dieu, reprit madame Duvillier en secouant la tête d'un air d'incrédulité. Entre mari et femme, on ne se connaît jamais bien que plusieurs années après le mariage. Et c'est alors qu'arrivent les désenchantements. Vous pouvez me croire, monsieur Jules, continua-t-elle avec un mélange de tendresse et de mélancolie qui rendait sa physionomie plus belle et plus expressive. J'ai de l'expérience, moi qui vous parle. Ah, mais c'est un supplice de vivre toute une vie enchaînée à un homme qu'on n'aime pas, qu'on méprise.
Mais où veut-elle en venir ? Pensa Jules. Car il avait encore cette naïveté, cette candeur qu'on trouve quelquefois chez un tout jeune homme que le souffle du monde n'a pas eu le temps de corrompre. Il avait du sexe une opinion si favorable qu'il ne croyait pas qu'une femme mariée pût avoir un amant. Et dans sa chaste ignorance, il regardait les drames modernes comme d'abominables impostures. Aussi disait-on parmi ses connaissances qu'il était un peu paysan du Danube et qu'il avait grand besoin d'être façonné par quelques femmes charmantes, pleines d'amour et d'expérience, qui se chargeraient de le dégourdir. Pendant 2 ou 3 minutes, la conversation demeura suspendue et Jules regardait en silence Madame Duvillier, qui le regardait aussi, mais avec une expression bien différente. Enfin, elle lui dit en baissant la voix, comme si quelque autre personne eût pu l'entendre.
« Vous m'inspirez le plus vif intérêt, monsieur Jules, je dois vous parler en ami. Croyez-moi, vous êtes trop jeune pour vous marier, et si vous ne différez pas cette union de quelques années, vous en aurez des regrets plus tard. » Vous aimez aujourd'hui cette jeune personne, dites-vous. Elle est belle, attrayante, spirituelle, je veux le croire. Mais êtes-vous sûr de l'avoir toujours les mêmes yeux et de l'aimer dans un an, comme aujourd'hui ?
Oh oui, madame, m'interrompit Jules d'une voix fortement accentuée. J'en suis sûr. Et quand vous connaîtrez la ravissante femme que j'épouse, vous comprendrez toute ma tendresse pour elle. Quand j'aime une fois, madame, c'est pour la vie.
« Mais c'est la première fois, peut-être, que vous aimez, monsieur. »
Au même instant, la voix de M. Duvillier retentit sous la fenêtre. « Monsieur Jules, voulez-vous me jeter une épingle, un peu grosse, s'il vous plaît ? Je viens d'attraper un sphinx magnifique, et je guette toujours mon laurier rose, que je n'ai pas encore aperçu. »
Darrel enveloppa quelques épingles dans un morceau de papier qu'il jeta par la croisée, et que le vieux naturaliste attrapa comme une mouche au vol. « Est-il possible, monsieur Jules, » dit madame Duvillier,
avec un air de reproche cendre.
« Quoi, vous n'avez jamais aimé personne et vous songez à vous marier ? Mais vous serez malheureux, je vous jure. Vous mariez à 22 ans, mais quelle folie, quelle imprudence. Songez donc qu'il est impossible, absolument impossible, que vous n'ayez pas d'autre passion dans tout le cours de votre existence, et que si vous devez avoir une liaison quelque jour, il vaut beaucoup mieux que ce soit avant le mariage qu'après. Mais dites-moi, monsieur Jules, qu'avez-vous besoin de vous marier si jeune? Est-ce que, par exemple, vous ne feriez pas mieux d'attendre jusqu'à 25 ou 26 ans? Le mariage est souvent une chaîne bien lourde. »
Il y avait déjà longtemps que Jules Darel connaissait Madame Duvillier. L'esprit romanesque et bizarre de cette femme, les principes de morale étranges qu'elle avançait parfois dans la conversation, n'étaient pas choses nouvelles pour lui. Mais comme il ne s'était pas encore trouvé tout seul avec elle, il ne l'avait jamais entendu s'exprimer sur le mariage d'une manière aussi catégorique. « En vérité, madame, vous êtes trop bonne de vouloir bien vous intéresser à moi, » dit-il avec une politesse grave et sévère. « Mais je ne partage pas vos alarmes sur le sort qui m'attend une fois marié. Loin de croire que je serai malheureux, comme vous le prétendez, j'ai la ferme conviction, au contraire, que mon bonheur datera seulement du jour de mon mariage.
« Et ce mariage, quand doit-il se faire, monsieur ?» demanda-t-elle en appuyant sur les mots avec une certaine aigreur. «
Eh bien, dans 6 semaines, madame, enfance rénale, deviendra ma femme.
« Eh bien, monsieur Jules, » reprit-elle d'une voix douce et presque suppliante, « venez passer une quinzaine de jours à notre maison de campagne. Nous partons après-demain. Vous travaillez trop à Paris et vous avez besoin de vous reposer quelque temps. Venez, je vous en prie, monsieur Jules. Nous causerons tout en nous promenant et, j'espère, vous déterminer sans beaucoup de peine à retarder cette union. Qui sait ? Peut-être réussirai-je à vous convaincre, elle n'est pas indispensable à votre bonheur, et que vous n'aimez pas autant mademoiselle Fermance que vous semblez le craindre. Vous me dites que c'est une passion profonde, ardente, inaltérable. Ardente, oui, oh, je n'en doute pas, mais inaltérable, oh, voilà ce que je nie. À votre âge, quand on aime, c'est un délire, une surprise d'essence ou de l'âme, n'importe. Une fougue un peu trop pleine du cœur, un besoin d'aimer quelque chose, enfin. Mais si une femme belle et brillante était prête à braver pour vous tous les vains et cruels préjugés du monde, à vous aimer... Si je vous disais, Jules...
Arrêtez, madame, interrompit Darel en se levant avec vivacité. Je ne veux plus rien entendre. Oubliez-vous que vous êtes marié et que je le suis presque moi-même? Madame Duvillier devint pourpre. Des éclairs jaillirent de ses yeux noirs, des éclairs furieux. Sa respiration courte et saccadée trahissait une violente agitation intérieure.
« Et qui vous fait penser, monsieur, que j'oublie cela ? » dit-elle d'une voix sourde. « Vous interprétez singulièrement mes paroles. Pour quelle espèce de femme me prenez-vous, monsieur ? » Il fallait me laisser achever ma phrase, vous auriez vu que je n'ai rien oublié. Je suis mère, monsieur, et ma fille sera bientôt en âge de se marier. Voilà ce que j'allais vous dire quand vous m'avez interrompu d'une manière aussi étrange. Et n'est-ce pas tout naturel qu'une mère songe à l'établissement de sa fille ?
Oh, pardon, mille fois pardon, madame, s'écria Jules, prêt à tomber aux genoux d'une femme qui croyait avoir injustement offensé.
Il faut avouer que vous êtes peu clairvoyant, monsieur, poursuivit-elle. Je vous croyais plus de pénétration. Mais, à ce qu'il paraît, vous n'avez guère l'habitude de comprendre à demi-mot.
Oui, je suis un maladroit, madame, un étourdi, continua Jules, qui se confondait en excuses. Mais vous êtes si bonne que vous me pardonnerez.
Alors, je vous pardonne, répondit-elle avec une affection plus douce. Bon, je n'ai pas de rancune et je suis indulgente pour mes amis. Je voulais donc vous dire tout à l'heure, quand vous m'avez si cruellement fermé la bouche, que je serais enchanté de vous avoir pour gendre. Ma fille est encore une enfant, sans doute, mais Elle sera jolie, riche, et dans quelques années, quand elle sera grande, ajouta-t-elle en appuyant sur le mot grande, comme sur le mot enfant, nous pourrions. Mais puisque votre choix est fait, puisque votre cœur est irrévocablement fixé, n'en parlons plus. Ah, madame, comment vous témoignez toute ma reconnaissance ? S'écria Jules, qui se reprochait amèrement son injustice. Vous m'offrez la main de votre fille. C'est un honneur que je ne mérite pas et que je m'empresserais d'accepter si j'étais encore libre. C'est bien, monsieur Jules, encore une fois, n'en parlons plus. Mais puisque vous ne voulez pas être mon gendre, au moins soyez mon ami. Quand vous me connaîtrez davantage, j'espère que vous ne me refuserez pas votre amitié. Oh, madame, elle vous est acquise à tout jamais, dit Jules avec exaltation, en portant à ses lèvres une main blanche et fine que lui tendait madame Duvillier en signe de réconciliation. Presque au même instant, la porte s'ouvrit, et monsieur Duvillier, le visage écarlate et dégoûtant de sueur, rentra dans la chambre tout essoufflé et se jeta sur un fauteuil pour reprendre haleine. Sur un revers de sa redingote, à côté de son ruban rouge, un pauvre papillon, transpercé d'une épingle, battait des ailes et colorait le drap d'une poussière brillante qu'il secouait en s'agitant. C'était l'unique et malheureux gibier que l'impitoyable naturaliste avait rapporté de sa chasse et qu'il laissait mourir au milieu des plus affreuses tortures. M. Duvillier était pourtant le meilleur des hommes, mais, comme dès sa plus tendre enfance, il s'était familiarisé avec les supplices qu'il infligeait aux insectes, leurs convulsions douloureuses, leurs battements d'ailes, leur épouvantable agonie, le trouvait impassible. Et sa main leur enfonçait froidement une épingle au travers du corps, comme il eût fait dans une pelote. « Eh bien, monsieur Duvillier, dit sa femme avec un sourire légèrement sardonique, avez-vous attrapé votre sphinx du laurier rose ?»« Non, non, madame, répondit brusquement le chasseur désappointé. J'en viens à vide, j'en suis au désespoir. Mais êtes-vous bien certaine d'avoir aperçu un laurier rose ? Ce n'était probablement qu'un mort sphinx ou tout autre noctuel. » « Mais j'ai des yeux, je pense, répliqua sèchement madame Duvillier, et j'ai pas l'habitude de prendre un bon moineau pour un aigle. »« Oh, monsieur Jules, dit le naturaliste avec un profond soupir, vous me voyez la mort dans l'âme. Mais j'aurais donné 30 louis seulement pour le voir planer au-dessus de ma tête, ce précieux lépidoptère qui vole immobile et les ailes étendues comme un oiseau de proie. « Hélas, hélas, il manque à ma collection. »« Mais puisque vous donneriez 30 louis seulement pour le voir, » reprit Darrel en souriant, « il me semble que vous le trouveriez à bien meilleur compte dans la boutique de naturaliste, qui ne demanderait pas mieux que de le vendre. » M. Duvillier fit un bond sur son fauteuil, et la secousse détacha de sa boutonnière l'insecte agonisant qui tomba par terre avec son épingle. « Oh !» murmura M. Duvillier en ramassant avec beaucoup de précaution le sphinx qui se débattait et en lui pinçant la tête comme une prise de tabac entre le pouce et l'index. « Vous m'avez étonné, jeune homme, continua-t-il. Et le soubresaut qui en est résulté a failli causer un malheur. Mais grâce à Dieu, mon sphinx n'est guère endommagé. Ah, ne me disiez-vous pas tout à l'heure de me procurer un laurier rose à prix d'argent ? Moi qui, tout jeune encore, presque au sortir de la mamelle, poursuivais déjà les papillons diurnes et nocturnes. Moi qui, sachant parler à peine, bégayais leur nom. Moi enfin, monsieur, qui dans toutes mes boîtes n'a pas un seul coléoptère ou lépidoptère qui n'était pris, pincé, piqué, camfré de ma propre main. Et vous me conseillez d'acheter un sphinx, ah, oh, monsieur, mais c'est absolument comme si un chasseur de profession achetait un lièvre ou des perdrix au marché. Dites, ne serait-ce pas ignoble ? Oh, sans aucun doute, répondit Darrel, qui n'avait pas écouté un mot de cette longue tirade et qui semblait préoccupé, rêveur. Une seule fois, monsieur, ajouta le naturaliste avec un grand sang-froid, J'eus le bonheur d'entrevoir le sphinx du laurier rose, vivant et libre. C'est en 1789, dans le mois de septembre. Oh, quand je vivrai 100 ans, j'oublierai jamais cela. Oh, monsieur, quel admirable spectacle! Figurez-vous une rose qui volerait dans l'air. Que dis-je, une rose? Non, une pierre précieuse, un rubis, une opale avec 4 ailes éblouissantes.
Ne trouvez-vous pas que mon mari est très romantique? Interrompit Madame Duvillier en se tournant vers le jeune avocat d'un air impatienté où perçait l'ironie.
Jules répondit par une légère inclination de tête, accompagnée d'un sourire imperceptible.
La tête me tournait, continua Monsieur Duvillier, et pour comble de malheur, j'avais pas mon échiquier. Immobile et ébloui, je retenais mon souffle, et je n'osais faire un pas, dans la crainte d'effrayer le superbe lépidoptère, qui me prenant sans doute pour un arbre, vint se poser, chose merveilleuse, inouïe, sur le bout de mon nez. Oh, je crus un moment que j'allais mourir d'apoplexie foudroyante. Mais il n'en fut rien, par bonheur. Et rassemblant toute ma présence d'esprit, je levai le bras graduellement jusqu'à l'insecte, et je m'apprêtais à le saisir par les antennes, quand il vit l'ombre de mes 2 doigts et chercha son salut dans la fuite. Fugas salutem petit, comme l'île devant un animal.
Monsieur le latiniste, dit Madame Duvillier en se levant, vous oubliez que M. Darrel a des affaires sans doute, et que nous devons nous aller voir Léonie à sa passion, sans compter toutes les visites d'adieu que nous avons à faire aujourd'hui.
Oui, vous avez parfaitement raison, Madame Duvillier, répondit le traducteur de Cornelius Nepos, en piquant sa noctuelle dans le fond de son chapeau ébouriffé, qu'il lustra du revers de sa manche. Et nous partons après-demain pour la Picardie. Mais j'espère bien que notre aimable Cicéron, notre jeune et courageux avocat, nous fera l'honneur de venir passer à notre maison de campagne une partie de l'été. Je tiens particulièrement à lui montrer ma collection, ma chambre obscure et surtout à lui soumettre ma traduction de Cornelius.
Tout en secouant la main de Jules, il s'acheminait vers la porte. Et Darrel, après avoir remercié le brave homme de son aimable invitation, salua profondément Madame Duvillier, qui lui dit adieu avec un charmant sourire. 3 semaines après, le jeune avocat se trouvait au château de M. Duvillier. Je ne saurais trop dire quelle étrange métamorphose s'était opérée dans l'esprit et le cœur de Jules Darrel.
Mais il ne songeait plus le moins du monde au mariage, et Madame Duvillier ne lui parlait plus de sa fille. On prétend que M. Darrel, ce jeune homme si naïf et si candide, est maintenant un roué dans toute la force du terme. Il fait, je crois, partie de la loge infernale et du Jockey Club. Quant à la pauvre Hermance Rénal, elle vient d'entrer dans un couvent après avoir perdu sa mère. Madame Duvillier, bien qu'elle ait passé la trentaine, est toujours une des plus jolies femmes de Paris, une des plus séduisantes. Son excellent mari adore toujours les papillons, et Cornelius Nepos. Il a réussi enfin, le digne homme, à prendre un sphinx du laurier rose, et grâce à la collaboration infatigable de Jules Darrel, la fameuse traduction de Cornelius Nepos est sous presse.